Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Tous les jeudis, on retrouve votre petite philo de la pub et des marques. Quel est le programme cette semaine?
Eh bien, cette semaine, on va sur Amazon et derrière l'écran, on se retrouve à côté de Gilles Deleuze.
À tout à l'heure.
Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité.
Et ce matin, on s'intéresse à la méthode éducative en vogue dans certains milieux, la méthode Montessori, du nom de la médecin, psychologue et pédagogue Maria Montessori, dont on vient d'entendre la voix. Les créateurs de Google, d'Amazon, de Wikipédia ou encore les enfants de ma voisine ont tous été scolarisés dans une école Montessori, dont le grand précepte est d'apprendre à faire seul. Il existe entre 20 et 30 000 écoles Montessori dans le monde, environ 150 en France, avec une demande de plus en plus forte et des frais de scolarisation au prix fort, sans compter les livres et les jeux éducatifs estampillés Montessori qui connaissent une forte croissance. Nous verrons ce matin quels sont les grands principes et la philosophie de cette pédagogie plus si nouvelle que ça. Quels sont les bienfaits et les critiques que l'on peut adresser à cette méthode? Les écoles Montessori suivent-elles le programme officiel de l'éducation nationale? Est-ce une pédagogie destinée aux plus riches d'entre nous? N'hésitez pas à poser vos questions au standard de France Inter 01 45 24 7000 par mail grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Tout le matériel qui est ici est construit selon le principe de l'autocorrection, un peu comme les pièces de vaisselle brisées. N'oubliez pas qu'un enfant sait très bien quand il commet une erreur. C'est pour cette raison qu'une seule maîtresse travaille avec de nombreux élèves sans problème.
C'est vraiment une formidable expérience.
Oh non, c'est plus qu'une expérience. On peut appliquer cette méthode à presque tous les enfants.
Mais voyez-vous, vous oubliez une chose. Chez nous, ici en Italie, notre problème principal, c'est l'analphabétisme.
Écoutez, vous avez bien vu comment étaient les enfants le premier jour de classe. Pourquoi vous ne me faites pas confiance?
Bon, très bien. Vous me faites un rapport écrit sur tout votre travail ici et je verrai ce que je peux faire.
C'est bon, les enfants. Il est 5h. Vous pouvez partir.
Un extrait du biopic Maria Montessori, une vie au service des enfants, téléfilm en deux parties de Gianluca Maria Tavarelli. Bonjour Marine Mogin.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes éducatrice et directrice d'une école Montessori à Paris qui s'appelle...
L'école Montessori de Paris.
Bonjour Nahiri Nahapétian.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien.
Vous êtes journaliste au mensuel Alternative Économique et vous publiez dans les dossiers de l'Alternative Économique un numéro qui s'appelle « Réinventer l'école, un tour de France des initiatives ». Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Ali.
En ligne depuis quand? Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue, clinicien et psychothérapeute. Dernier ouvrage paru chez Olivier Jacob, « Développer le self-control de son enfant ». Alors qui était Maria Montessori? Eh bien, c'était une Italienne née en 1870. C'est la première femme diplômée en médecine dans son pays. Elle s'occupe d'enfants, dits arriérés, dans une clinique psychiatrique. Et elle constate une chose très simple. Ses enfants se mettent à progresser dans un environnement favorable. Maria Montessori développe alors un matériel pour les aider à lire et à écrire. Elle complète ensuite sa formation de médecin par des études de philosophie et de psychologie. En 1904, une chaire d'anthropologie lui est confiée à l'Université de Rome. Maria Montessori se considère comme la continuatrice des travaux du docteur Itard, le docteur Itard qui avait dispensé une éducation à Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, une histoire racontée par François Truffaut dans L'enfant sauvage. Alors c'est en 1907 que Maria Montessori met en œuvre sa pédagogie nouvelle dans une école du quartier de San Lorenzo, un quartier pauvre de Rome. En 2 ans, les enfants désordonnés et chahuteurs deviennent polis et calmes. Succès international immédiat de Freud à Gandhi, en passant par Graham Bell, Maria Montessori obtient une reconnaissance internationale. Alors c'est une méthode qu'elle n'a jamais déposée, d'où la floraison d'écoles, de livres, de jouets éducatifs estampillés Montessori, Marine Mogin.
C'est exactement ça. Je reviendrai juste sur un point. Effectivement, à San Lorenzo, quand elle a ouvert la première Casa di Bambini en 1907, elle a récupéré, en fait, elle s'est occupée des enfants qui étaient plus jeunes, les 3-6 ans, des enfants qui étaient dans les rues. Et c'est grâce à eux, c'est là qu'a vraiment commencé sa véritable mise en place de la pédagogie qu'elle a créée par la suite.
On a parfois accusé Maria Montessori d'avoir collaboré avec Mussolini. Qu'est-ce que...
Elle a quitté l'Italie. Effectivement, Mussolini voulait... La Casa di Bambini a eu une telle renommée internationale, en 4 ans, tout le monde venait la voir. Voir ses enfants de très jeune, de 4-5 ans, qui était stabilisé, qu'il savait lire, et Mussolini s'en est intéressé. Et afin de contrer tout ça, elle a quitté l'Italie. Voilà.
Nahiri Nahapétian, Maria Montessori, c'est l'une des grandes figures de l'éducation nouvelle, de la pédagogie nouvelle, mais il y en a d'autres, hein, comme Célestin Freinet.
Il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que dans le numéro que j'ai dirigé, qui s'appelle « Réinventer l'école », on parle finalement peu de Montessori, parce que on a volontairement centré le numéro sur l'école publique, parce que c'est là que sont scolarisés 80% des enfants, et l'innovation à l'école publique, traditionnellement en France, c'est plutôt la méthode Freinet qui est appliquée plus que Montessori.
Alors Maria Montessori considérait que l'éducation était comme une aide à la vie, c'est ça, Marilyn Maugin ?
C'est exactement ça. L'éducation est une aide à la vie. Le rôle de l'adulte est de guider l'enfant et de lui permettre de se construire afin qu'il puisse devenir un homme épanoui dans le monde de demain.
Alors, elle évoque très fréquemment l'esprit absorbant des enfants. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'esprit absorbant des enfants se situe entre 0 et 6 ans, principalement. Maria Montessori, est la seule femme médecin, la seule pédagogue, peu importe le qualificatif qu'on peut utiliser pour la décrire, à avoir une vision globale de l'éducation de 0 à 24 ans. De 0 à 24 ans, elle décrit la progression de l'enfant en 4 plans. Et ces 4 plans sont liés. Et à travers ça, elle décrit dans le premier plan, entre 0 et 6 ans, l'éducation comme une aide à la vie. L'éducateur, l'adulte, peu importe le nom qu'on lui donne, est là pour aider l'enfant à faire par lui-même.
L'esprit absorbant, si je comprends bien, c'est ce qui pousse l'enfant à explorer son environnement, oui, et à acquérir des,
oui,
connaissances.
Exactement.
Nahiri Nahapétian.
Alors, je vous ai parlé de Freinet tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas tellement la même approche, les mêmes concepts, puisque Freinet n'était pas psychologue, mais enseignant. Donc, c'est plus une réflexion globale sur la démocratie dans la classe, la place de l'enseignant, toutes choses qu'on retrouve aussi dans la méthode Montessori, finalement. Donc, les innovations qu'on peut rencontrer en général à l'école publique consiste en des choses finalement très simples, à changer la place de l'enseignant qui descend de son estrade, à organiser la classe autrement, en îlot, à mettre en place de l'entraide, de la coopération entre les enfants. Donc c'est moins des choses basées sur la psychologie et plus sur l'organisation de la classe.
Didier Pleu, quel regard général portez-vous sur les écoles, la méthode Montessori? Et comment expliquez-vous le succès croissant de ces méthodes en France ?
Je crois que l'engouement qu'il y a en ce moment pour l'école Montessori, je pense que c'est... je ne sais pas si c'est une bonne réponse à un vrai problème. Je crois que de plus en plus, moi je vois en cabinet de consultation, je le vois aussi puisque je supervise pas mal d'enseignants, il y a des enfants qui sont de plus en plus difficiles, pas tous, hein, mais certains enfants sont de plus en plus difficiles en bas âge, que ce soit en classe maternelle, et moi je le vois aussi en entretien ici, et je crois que ces enfants-là souffrent plus d'un manque de maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'ils sont souvent dans le principe de plaisir, très insatisfaits, très quémandeurs, refus d'autorité, refus de l'effort, refus des frustrations, et en fait, devant ces problèmes-là, la réponse Montessori, qui est une réponse tout à fait judicieuse en 1908, dans un contexte d'autoritarisme, c'est plus de communication, renforcer l'estime de soi, renforcer la confiance en soi et l'autonomie des enfants. Tout ça est formidable, mais est-ce que ça répond vraiment aux enfants en difficulté de 2017, qui, à mon avis, ont plus un problème de maîtrise de soi, de contrôle émotionnel devant les frustrations et les réalités, qu'un problème d'autonomie ou d'estime de soi, tout simplement.
Marilyn Maugin.
Alors, je pense que effectivement, les enfants de 2017 sont différents des enfants que Maria Montessori a connus. Ça, c'est évident. La société n'est plus la même. Toutefois, je pense que les besoins et ce fameux esprit absorbant dont parlait Maria Montessori est le même. Les enfants sont poussés par un élan vital. Actuellement, l'enfant a besoin de... comme vous dites, il y a des enfants qui sont de plus en plus en difficulté en bas âge. À mon sens, c'était probablement le cas aussi en Italie en 1907. Toutefois, les enfants qui manquent de maîtrise de soi aujourd'hui, qui ont ce refus d'autorité... je suis convaincue que les principes mêmes qui sont inculqués dans les écoles Montessori ou à la maison, pour ceux qui pratiquent cette philosophie-là, permettent de combler ces lacunes.
Nahiri Nahapétian.
Alors, je sais, il faut faire attention quand même à pas dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont en difficulté de petits enfants. La personne qui est intervenue tout à l'heure, qui est psychologue, évidemment a une vision déformante puisqu'il reçoit les enfants en difficulté et qu'il voit surtout ça toute la journée. Les besoins des enfants évoluent. Il y a un besoin d'autonomie qui s'affirme chez chacun, mais les difficultés scolaires apparaissent plutôt plus tard. J'aimerais quand même qu'on soit vigilant.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter du quotidien que l'on retrouve une semaine sur deux. Alors cette semaine, vous êtes allé promener votre micro dans une école Montessori, dans les Hauts-de-Seine, pour voir comment ça se passe.
Ouais, je suis retourné à l'école Montessori bilingue de Rueil Malmaison. Moi qui ai fait un cursus traditionnel, j'étais bien étonné, bien surpris par ce que j'ai vu. Et c'est très intéressant.
À tout à l'heure, Antoine Lee. Bonjour Cécile, vous nous appelez depuis Berlin, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, à propos des écoles...
Merci pour vos émissions, je vous écoute souvent en podcast aussi.
Merci beaucoup. Vous avez fréquenté une école Montessori ?
Oui, c'est ça. En fait, nous, l'équivalent de la maternelle en Allemagne, c'est le kindergarten. Mm-hmm. Et ma fille vient juste de quitter. Elle est rentrée, l'équivalent du CP. Et on voit la différence. J'entendais justement par rapport à l'agressivité. Mm-hmm. C'est incroyable. Des enfants en difficulté, nous, on s'est rendu compte que les enfants de l'école Montessori étaient beaucoup moins agressifs en fait que les autres, parce que en Allemagne,
pour quelle raison,
je pense qu'en fait c'est juste qu'ils sont canalisés, c'est beaucoup plus calme, et c'est basé aussi sur le respect et l'entraide. Il y a une vraie solidarité entre les enfants, et parce qu'en fait ils sont mélangés entre 3 et 6 ans, et ils poussent les enfants à aider les autres dans l'apprentissage, pour les jeux, leur montrer comment ça fonctionne, pour les emmener à la cantine. Et je sais pas, en fait, c'est assez incroyable de voir aussi des enfants qui étaient vraiment en difficulté, parce que dans l'école où était ma fille, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient de milieux défavorisés, et aussi des enfants avec des parents handicapés mentaux.
Alors vous l'avez dit, les écoles Montessori en Allemagne, celles en tout cas que fréquentent vos enfants, font partie du système public, ce qui n'est pas le cas en France.
Oui, bien sûr, c'est un choix en fait. Et souvent, dans un seul bâtiment, il y a deux écoles maternelles différentes et les parents choisissent de choisir le cursus pas classique, on va dire, ou Montessori.
Et Cécile, Stéphanie par mail va dans votre sens. Elle nous dit « Cette méthode permet à un enfant d'être valorisé dans son apprentissage grâce à la mise en avant de ce que l'enfant sait bien faire au lieu de pointer constamment ce qu'il ne fait pas bien ou ne sait pas encore faire, comme c'est le cas dans l'éducation nationale. » Réaction très très rapide autour de la table. Nahiri Nahapétian, sur ce que vient de dire notre auditrice.
Alors, je dirais que le fait en effet de développer l'autonomie des enfants, ça peut aider à dans des zones très en difficulté à calmer l'agressivité, tout à fait. Et les classes et le fait de mélanger les âges aussi, c'est des expérimentations qui fonctionnent plutôt bien.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé depuis Berlin. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Delmat, et c'est Jérôme Boulet qui réalise.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Great hoodies, they cuff their heads. I can't see their faces, can't see. They knew me, looked swell my hair. My heart was something jumping. No need to take from.
Samfa, Blood on Me.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h24 et ce matin on s'intéresse aux méthodes éducatives Montessori avec Marie-Yne Maugin qui dirige une école Montessori à Paris. Nahiri Nahapétian, journaliste au mensuel Alternative Économique, et avec Didier Pleu, psychologue en ligne depuis quand?
Alors je prépare un milieu où ils puissent vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu je mets une quantité d'objets où les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Et ils deviennent très actifs. Et dans cette activité, ils s'ordonnent et deviennent disciplinés et heureux. La maîtresse, elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement, l'enfant devient plus intelligent.
Un extrait d'une interview du docteur Maria Montessori en 1947. Discipliné et heureux, c'est l'objectif de la méthode Montessori, Marie-Yne Maugin.
Discipliné.
C'est ce qu'elle vient de dire. Hein.
C'est discipliné, heureux, je rajouterais, responsable, en ayant confiance en lui, et surtout en ayant pris la responsabilité d'avoir un rôle à jouer, oui, dans la société.
Didier Pleu, ça devrait vous plaire, ça. Discipliné, heureux, nous dit Maria Montessori.
Oui, si c'est ça qui marche, pourquoi pas, mais moi je doute beaucoup, et contrairement à ce que disait une de vos invitées, c'est pas simplement en cabinet de consultation que je remarque que les enfants aient surtout un problème avec le principe de plaisir, hein. Je m'occupe beaucoup d'enseignants, j'entends beaucoup d'enseignants, et c'est une grosse difficulté cette histoire de est-ce que les enfants apprennent vraiment le réel et ses frustrations. Alors moi quand on me donne des solutions de 1908 avec Montessori, on peut nous donner aussi Neil, Summerhill 1920, Dolto 1970, non, c'est complètement anachronique. Je répète, c'est très bon dans un contexte d'autoritarisme pour la confiance en soi, pour l'autonomie de l'enfant, mais pas du tout dans un contexte actuel où les enfants qui ont des difficultés avec l'autorité, avec les apprentissages difficiles et les contraintes. Je prends deux exemples dans les méthodes de Montessori classiques, c'est qu'on laisse l'enfant à l'initiative de ses apprentissages. Si vous laissez un enfant à l'initiative de la musique, il ne fera pas de solfège. À l'initiative des maths, il ne fera pas d'exercice. À l'initiative du football, il voudra être avant-centre sans faire des entraînements. Et quand je vois aussi qu'on interdit, qu'on dit qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre l'enfant et puis l'enseignant, je trouve ça terrible. C'est cette horizontalité qui amène la toute-puissance chez l'enfant. Donc ce ne sont pas les mêmes enfants. Ces méthodes, pour moi, sont bonnes dans l'aspect positif. Créativité de l'enfant, mais pas du tout dans l'acceptation du réel.
Marie-Yne Maugin.
Pardonnez-moi, mais Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, je factuellement, vous décrivez une société, en tout cas une partie de la société. L'enfant est à l'initiative, effectivement, dans les écoles Montessori, à une condition et une seule. Si l'éducatrice ou l'éducateur lui a présenté le matériel, il peut le réutiliser. Il y a des contraintes. Chez Montessori, le cadre extérieur imposé par l'environnement préparé de la classe, par l'éducateur et par le matériel lui-même qu'on considère comme des aides au développement, à ce moment-là, l'enfant peut être à l'initiative, mais en amont, s'il décide de faire, je vous cite un exemple. Un enfant de 3 ans qui veut faire la multiplication sur l'étagère des mathématiques. Il ne peut pas, tant qu'il n'a pas fait tout ce qui était, le matériel qui était en amont, et surtout si l'éducatrice ne le lui a pas présenté. Si le matériel est utilisé, sachant que chaque matériel est unique, il ne peut pas non plus l'utiliser. Donc, il y a quand même un rapport de hiérarchie qui est différent, qui se conçoit de manière beaucoup plus positive et moins injonctive que dans le système classique.
Naïrine a un pétillon.
Je voudrais quand même m'insurger contre les discours de Didier Plu. Excusez-moi, monsieur, mais vous tenez un discours décliniste et je pense pas que... Je vais pas nier qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif des problèmes. À mon sens, ce problème, déjà, il se situe rarement en maternelle parce que la maternelle française marche bien et envié dans le monde entier. Il se situe plus souvent à des niveaux supérieurs. Et ces difficultés-là proviennent au contraire du fait qu'on a démocratisé l'école, massifié l'école, sans changer les méthodes d'enseignement. Donc, ce que vous proposez, en fait, c'est une sorte de retour à l'autorité, il me semble. Et je pense pas que ce soit la bonne solution.
Réponse de Didier Pleu.
Non, c'est toujours la réputation du père fêtard, c'est pas du tout ça que je dis. C'est évident que si on commence à dire à des tout petits enfants maternels que on apprend dans le plaisir, que les adultes sont très sympathiques, que tout est formidable, il y aura de grandes difficultés quand on va les réveiller en première pour leur dire il faut travailler. C'est simplement ça, je ne dis pas du retour à l'autoritarisme, je dis gardons les bonnes choses de la psychologie positive sur le respect inconditionnel de l'enfant. L'enfant est un être d'émotion, on est tous d'accord, on ne fait pas n'importe quoi avec un enfant, il n'est pas question de le castrer. Mais est-ce qu'on peut inclure très tôt aussi le conflit, l'autorité adulte, des choses pas un peu plus déplaisantes au quotidien, etc. Je me bats là-dessus en disant aux parents, mais très tôt, apprenez les deux choses, amour et frustration. Dans la méthode Montessori, je ne vois que le côté on va apprendre dans la joie, dans le plaisir, c'est du merveilleux, mais c'est pas des gens qui sont en contact des enfants, et les enfants n'ont pas tous besoin de simplement une espèce d'idéal comme ça, venu de la part des adultes. Il faut coller à la réalité de nos enfants. Je ne suis pas pessimiste, tous les enfants ne sont pas difficiles, mais la méthode Montessori, pour certains enfants, c'est tout à fait irrationnel.
Marilyn Mogin, faisons un peu de pédagogie. Quels sont les principaux fondements de la méthode mise en œuvre par Maria Montessori? D'abord, l'attention et la concentration.
Alors, les principaux fondements, c'est...
L'attention et la concentration.
L'attention et la concentration, effectivement. Alors, en 3-6 ans, il y a 4 zones d'activité dans la classe. La première, ce qu'on appelle la vie pratique, a pour but de faire travailler l'enfant dans le mouvement. Si un enfant est en mouvement, il a le mouvement de sa pensée. Donc on lui inculque la fonctionnalité de la logique et de la pensée. Et au fur et à mesure, tout cela va être étayé et dans le domaine du sensoriel, des langages et des mathématiques, avec une progression dans laquelle nous faisons passer l'enfant du concret à l'abstrait.
Et l'apprentissage par la manipulation est très important, oui, dans les écoles Montessori.
Oui, on travaille par la manipulation, par les sens.
Par exemple, on manipule des jeux éducatifs sensoriels, des lettres rugueuses pour améliorer les compétences motrices de l'enfant, c'est ça?
Exactement. Alors, l'enfant travaille, une fois que l'éducatrice lui a présenté un matériel, l'enfant, si ce matériel est disponible sur les étagères, peut le prendre et le travailler aussi longtemps qu'il le souhaite. Donc il est dans la répétition. Qui dit répétition dit construction de la logique de l'enfant et de sa concentration. Ensuite, une fois que l'enfant manipule seul, chaque matériel contient le contrôle de l'erreur. Donc, à partir de ce moment-là, l'enfant n'a plus besoin du regard de l'adulte pour savoir si ce qu'il fait est bon ou pas. Il est seul juge du travail qu'il opère. Donc là, nous sommes partis dans une confiance en soi où, oui.
Non, mais allez-y, continuez.
Où l'adulte n'est pas, n'est pas négatif. Il est positif et l'environnement de la classe, c'est-à-dire les autres enfants, sont aussi là pour intervenir et l'aider dans ses apprentissages.
Et il s'agit également d'une pédagogie de l'autonomie.
Oui.
Mais l'autonomie, c'est pas le laisser faire, c'est pas le grand n'importe quoi.
Ah mais non, c'est pas le laisser faire, bien sûr que non. Il y a un cadre dans les écoles. Les écoles, et même dans la pédagogie Montessori, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un des fondements, c'est quand même de dire que le cadre extérieur que l'adulte travaille et impose à l'enfant permet à celui-ci de construire son cadre intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous proposez à l'enfant un cadre ordonné qui répond à ses besoins, c'est-à-dire mettre une chaise à son niveau, une table à son niveau, lui apporter une petite fourchette, ce genre de choses, l'enfant va travailler dans la confiance et dans l'autonomie et il va construire tout ce qui est sa liberté intérieure parce qu'il va pouvoir faire son libre choix.
Accompagné par des éducateurs attentifs et bienveillants. On évite les paroles et les gestes brusques et toute l'action de l'éducateur a un but précis.
L'éducateur intervient en classe comme un guide. Voilà. Il est au service des enfants et non pas l'inverse comme dans l'éducation nationale.
Naïrine Apétian.
Alors, je voudrais juste décrire un peu ce que j'ai pu observer dans mon tour de France de l'innovation pédagogique ou avec les journalistes avec qui on a rédigé le numéro, on s'est rendu sur le terrain, dans les classes. Et les enseignants qui appliquent des méthodes innovantes, donc plus souvent freinées parce que c'est l'école publique que Montessori dans ce que j'ai observé, sont des enseignants, mais bon, peu importe ces étiquettes, le plus souvent, ces enseignants sont très motivés, très présents. C'est en général les enseignants les plus motivés qui appliquent ces méthodes, donc on est très loin des missions des adultes et d'une horizontalité entre adultes et enfants, parce qu'au contraire, ils encadrent beaucoup et ça leur demande beaucoup de travail d'appliquer ces méthodes-là.
Et Joël, par courriel, nous dit il y a une vraie différence entre Montessori et Freinet. La pédagogie Freinet vise à la formation de citoyens éclairés et s'adresse à tous. La pédagogie Montessori s'adresse à une élite. Les écoles Montessori sont payantes et la formation est très chère. La formation Freinet est, elle, gratuite.
Puisqu'elle se déploie dans le public.
Exactement. Allez, il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Rebonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Rebonjour Ali.
Alors cette semaine, vous vous intéressez à la stratégie de communication de l'un des géants d'Internet qui compose le célèbre GAFA. Il y a Google, Apple, Facebook et Amazon. Vous vous intéressez à Amazon ce matin.
Le sourire sur les colis, c'est nous. Nous sommes Amazon. Nous sommes les réinventeurs de votre quotidien. Nos plus belles réussites sont celles auxquelles vous ne pensez plus, mais dont vous ne pouvez plus vous passer. Amazon.
Bonjour! Qu'est-ce qui vous a plu sur Amazon?
On peut trouver des choses pas très chères et un peu de tout, donc c'est pratique.
Vous achetez quoi dessus? Des livres, des objets?
Non, tout. Du trépied d'appareil photo
aux livres, aux jeux de société, films.
Voilà, comme on vient de l'entendre, hein, Amazon fait partie de nos vies, comme ces autres marques, Coca-Cola, Nike ou Apple, dont on a déjà parlé ici. Amazon, c'est une des grandes marques, donc, qui marque le monde, justement. Une marque que tout le monde connaît et qui s'impose à tous, justement, du fait d'une certaine philosophie ou d'une certaine représentation du monde. Sauf que l'histoire d'Amazon, Ali, elle est bien plus récente que celle de ses autres grandes marques, parce que Amazon a été créé il y a 22 ans par Jeff Bezos, qui en est encore le patron aujourd'hui, et qui est devenu donc le premier site de commerce en ligne dans le monde, et puis en France aussi. L'ambition d'Amazon est assez simple, devenir le supermarché du monde, ou le Everything Store, c'est-à-dire le magasin qui vend tout, comme le dit son fondateur Jeff Bezos, qui vend tout et à tout le monde.
Mais cette ambition n'est pas nouvelle, Thibaut de Saint-Maurice?
Non, c'est effectivement une ambition qu'on retrouve dans l'hypermarché, hein, type Auchan, Leclerc ou Carrefour. Comme sur Amazon, on y trouve de tout, des accessoires pour appareils photo, des couches pour le bébé, des boîtes de conserve, des livres, des séries ou des croquettes pour le chat. Mais Amazon franchit un pas de plus. Là où l'hypermarché a encore une implantation physique, géographique et donc finalement aussi culturelle, Amazon, lui, n'a même plus besoin d'implantation pour rencontrer son client. Pour parler comme le philosophe Gilles Deleuze, Amazon, c'est le stade supérieur de la déterritorialisation. Pour Deleuze, la déterritorialisation, c'est un concept qui permet de décrire un processus d'émancipation, de rupture ou de libération par rapport à des manières de faire, à des procédures établies ou à des implantations historiques. La déterritorialisation, c'est donc le fait de changer la donne d'un territoire constitué, de changer ses habitudes, de bouleverser un ordre.
En voulant vendre de tout à tout le monde, Amazon modifie donc les territoires traditionnels du commerce ?
Oui, exactement, et ça s'appuie sur les recommandations personnalisées d'achat, et ça va jusqu'à la promesse d'une livraison en une journée, qui abolit les distances géographiques d'un territoire, ou plus récemment encore, on a suivi ça en fin d'année 2016, jusqu'aux premières tentatives de livraison par drone, qui là encore indique la tentation de se libérer du territoire. Et puis enfin, la tentation de déterritorialiser aussi ses impôts, même si ça semble changer pour Amazon. Pour Deleuze, les processus donc de déterritorialisation sont des processus de libération. Mais cette libération n'est souvent qu'une étape dans un processus de re-territorialisation cette fois. Et c'est le cas pour Amazon. Amazon a changé la donne du commerce en ligne en inventant quasiment donc le commerce en ligne. Mais Amazon finalement retrouve le territoire bien connu de la tentation monopolistique, voire totalitaire, de l'entreprise dans une économie capitaliste.
Alors pourquoi ça marche si fort ? Qu'est-ce qui nous séduit chez Amazon ?
Eh bien si ça marche, c'est parce que Amazon joue sur les deux tableaux. D'abord sur celui donc de l'absence de territoire, on l'a vu, c'est le côté nouveau du commerce en ligne et de tous ses services. Et puis qui dit absence de territoire, dit donc libération du désir pour Amazon. Mais Amazon joue aussi sur un autre tableau, celui de la mythologie du territoire. Ça ne vous aura pas échappé, Ali, Amazon s'appelle Amazon. Voilà, ce qui renvoie donc directement au fleuve Amazon, le plus puissant fleuve du monde, et à un territoire précis, l'Amazonie, poumon de la planète, forêt abritant encore d'ailleurs des tribus qui vivent dans le fantasme ou dans l'idéal de cette harmonie avec une nature généreuse qui comble leurs besoins. Voilà, en s'appuyant sur cette mythologie du territoire de l'abondance, Amazon réenracine nos désirs et colonialise en quelque sorte nos imaginaires. Amazon retrouve le mythe de l'abondance originelle, où tout était à portée de main ou à portée de clic. Amazon, c'est le jardin en ligne de l'abondance retrouvée où tout est possible. C'est donc le nouveau territoire de nos désirs suscités et excités par l'abondance, mais nos désirs ensuite qui sont orientés et domestiqués par les algorithmes, pour finir par être exploités et rentabilisés. Parce qu'au fond, un territoire libéré reste rarement inoccupé.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. À suivre le reportage d'Antoine Lee qui est allé promener son micro dans une école Montessori. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
Ali Rebbi sur France Inter.
Le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Plus de jours, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large, oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur, enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Sauver de la prison. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi pas? Sauver de là, sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion? Thank you. travers les mailles, faut que j'y aille, aller tenter ma chance. Reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas?
Mathieu Bogart, pourquoi pas?
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux écoles Montessori en vogue en France, avec, dans certains milieux en tout cas, avec Marilyn Mogin, qui dirige une école Montessori à Paris, Nahiri Nahapétian, journaliste au mensuel Alternative Économique, et Didier Pleu, psychologue clinicien en ligne depuis quand? Rebonjour Antoine Lee.
Rebonjour.
Vous êtes allé voir comment ça se passe dans une école Montessori?
Alors, je suis allé à l'école Montessori bilingue de Rueil-Malmaison. Alors, dans cet établissement où on apprend le français et l'anglais, il y a les niveaux maternels et élémentaires. En tout, 95 enfants fréquentent cette école. Alors, j'étais reçu par Nadia Hamidi. C'est l'une des maîtresses des 6-11 ans. Elle est aussi la directrice pédagogique de l'école. Et dans sa classe, il y a 25 élèves. Parmi eux, il y a Côme. Ce garçon de 10 ans était en train de travailler les divisions à l'aide de petites billes colorées.
15 centaines, moins 14 centaines, il me reste...
Une centaine.
Une centaine. Donc on va ranger ce qu'on a...
Distribué.
Distribué.
Nadia Hamidi, pour cette petite séance de division,
oui.
Vous utilisez des accessoires là, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une école.
Oui, ce matériel s'appelle les tubes de division. Donc dans chaque tube, il y a exactement 10 perles. Et les unités seront toujours vertes, les dizaines toujours bleues et les centaines toujours rouges.
Quel est l'intérêt de travailler avec un matériel comme celui-ci? Avec des couleurs, avec des petites billes? Ah, tu veux répondre, jeune homme?
Ouais, c'est comme j'ai 10 ans. En fait, quand il n'y aura pas de matériel, eh ben, on pourra se dire dans la tête, eh ben, là j'ai une dizaine de mille, c'est bleu. Et puis alors ça fait 10 000. Et puis on pourra diviser comme ça.
Il aura une image mentale. Et l'enfant va pouvoir s'appuyer sur cette image mentale du matériel pour aller du concret à l'abstrait. Et je ne vais pas leur faire apprendre par cœur qu'est-ce que c'est une division et comment on l'a fait. C'est par la manipulation qu'ils vont eux-mêmes comprendre comment ça fonctionne.
Ah, là il y a un garçon qui vient vous faire un petit câlin.
Voilà. Ben oui, c'est ça la vie dans une classe Montessori. C'est-à-dire qu'un adulte ne va jamais vers l'enfant, mais on accueille l'enfant s'il a besoin de nous.
Là, il y a un petit groupe d'enfants qui nous a rejoints. Là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu t'appelles comment?
Jonathan.
T'as quel âge?
6 ans.
Pourquoi t'es venu nous voir?
Parce que moi, j'ai envie.
Et t'avais envie de te lever, nous voir, et tu t'es levé alors?
Oui.
Y a pas de discipline dans votre cours ou quoi?
Il y a énormément de discipline, mais on va jamais dire à un enfant de pas venir ou de pas écouter une leçon s'il semble intéressé. Pour moi, c'est très important ce qui se passe là pour eux. Ils ont jamais vu de journaliste. On vient de parler de leur pédagogie, de quelque chose qu'ils utilisent tous les jours. La base, c'est guider l'enfant et surtout que l'enfant nous guide.
La preuve qu'il y a de la discipline, c'est que Côme, qui veut toujours prendre la parole, lève le doigt avant à chaque fois qu'il veut prendre la parole. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Et en fait, il y a de la discipline, en fait, il y a les règles d'or, il ne faut pas courir dans la classe, il ne faut pas crier, il ne faut pas dire des gros mots comme ça.
Et on les a établis comment, les règles d'or, et quand?
Bah, en fait, c'était le premier jour et c'est nous qui avons décidé.
Nicolas, vous venez en présentation?
Qu'est-ce que vous allez faire, là?
Là, je vais faire autre chose, avec un autre groupe d'enfants. Donc là, c'est une expérience sur les propriétés des liquides. Et là, j'ai une assiette pour verser mes différents liquides. Donc là, j'ai mis de l'eau colorée bleue. Il me fallait de l'huile et du miel.
Oh, là, il est rapide, là. Et là, ça descend, mais droit.
Ça fait une ligne, c'est beau.
Ouais, mais c'est vrai, mais quand même, c'est droit.
C'est du beige.
Mais après, ça va être dur pour nettoyer le miel.
Donc, celui qui va très vite, on dit qu'il est fluide. Et le liquide qui va moins vite, on dit qu'il est visqueux. Vous voyez, il y a une petite cloche qui a sonné et chaque enfant, donc il y a un tableau de responsabilité, ils doivent faire leur tâche dans la classe. Il y a des enfants qui doivent balayer, des enfants qui doivent nettoyer les tables.
Dès qu'on a fini, si les autres n'ont pas encore fini, il faut les aider aussi à faire.
chacun il a sa responsabilité. Il y a chef de rang, c'est celui qui range le rang pour aller à la récré, bien. Il y a assistance maternelle, c'est ceux qui vont chez les maternelles pour aider les plus petits et tout, quoi.
Ah, il y a des grands comme vous de 10 ans qui allaient voir les maternelles pour les aider ?
À manger et aussi aider les maîtresses.
Ah, pour le repas, pour la cantine ?
Oui.
On est tous ensemble ici.
Pour soi et pour les autres, il faut le faire.
Alors, sachez Ali que dans cette école Montessori bilingue de Rueil-Malmaison, la scolarité coûte quand même 7000 euros par an.
7000 euros par an et Gina par mail se plaint des tarifs de la plupart des écoles Montessori. Marilyn Mogin.
C'est effectivement le cas, je ne peux pas le nier. Les écoles Montessori coûtent en moyenne entre 5000 et 7000 euros par an aux parents. A contrario, je vous dirais que dans l'éducation nationale, un enfant coûte entre 7000 et 9000 euros à l'État aussi.
Oui, mais c'est par le biais donc, des impôts,
exactement.
C'est pas
après,
une contribution directe des parents, d'élèves. Thibaut Tamortis, vous mettriez vos enfants dans une école Montessori ?
À titre personnel, enfin.
Si vous aviez les moyens.
Oui, enfin, si j'avais les moyens, ce qui n'est pas le cas, mais on verrait ça. Mais je pense que la question, il faut que tous les parents se la posent, c'est où est-ce qu'on met nos enfants? Et en fait, je pense que beaucoup d'inquiétudes peuvent être dissipées par le fait, quelle que soit l'école, d'engager, de pas juste déposer ses enfants et de partir, mais d'engager toujours un dialogue avec les instituteurs, avec la direction, savoir ce que nos enfants font dans la journée, des choses comme ça.
Antoine Lee, vous mettriez vos enfants dans une école Montessori si vous aviez les moyens ?
Bah, si j'avais les moyens, pourquoi pas ? Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est de savoir que deviennent ces enfants ? Parce que, justement, vous débattez avec notre invité qui est en duplex, et que deviennent ces enfants ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi dans la vie, qu'on connaît, qui sont devenus célèbres ? J'en sais rien. Que deviennent ces enfants ?
Que deviennent ces enfants ?
Une fois adultes.
Une fois adultes. Déjà, d'expérience, parce que moi, j'ai plusieurs enfants, mes grandes sont maintenant au lycée, au collège, elles ont fait Montessori. Et à contrario, je vois aussi, je côtoie des enfants qui sont dans le public. Malheureusement, on n'a pas toujours affaire avec au même type d'enfants. Ce sont des enfants qui sont très responsables, autonomes, qui sont capables de faire des choix. Enfants, adolescents. Donc, plus tard, ça donnera il y a des adultes très connus, comme disait Ali en introduction, les fondateurs de Google,
d'Amazon, de Wikipédia.
Voilà, Wikipédia.
Didier Pleu, réaction au reportage d'Antoine Lee.
La première réaction, c'est que quand même, tout ce qui est proposé dans cette école-là, c'est aussi fait dans nos écoles publiques. Il n'y a pas que Montessori. Les enseignants des classes maternelles, des classes primaires en France font d'excellentes choses. Et puis, ils ont aussi fait de l'éducation positive avec l'apport de Dolto. Vous voyez, je ne suis pas tout le temps anti-Dolto. Mais pour moi, le vrai souci, c'est que susciter le désir d'apprendre, c'est formidable chez un enfant. Mais je doute que le passage qui fait que j'apprends dans le plaisir et comment je vais être devant le plus difficile, devant l'effort, devant le frustrant, sans la présence de l'adulte, c'est là que le passage me semble difficile. Susciter un désir, c'est facile. Mais susciter l'effort, l'intégration de petites frustrations dans l'apprentissage, ça c'est beaucoup plus difficile.
Narine Patian, je vais aller dans le sens de Didier Pleu. C'est vrai que quand j'entends certains laudateurs des écoles Montessori, j'ai parfois l'impression que le système scolaire traditionnel est à jeter aux orties, ce qui peut agacer tous les enseignants du système scolaire public qui font un formidable travail hors des écoles Montessori.
Oui, et qui par ailleurs essaye aussi d'innover. L'école publique telle qu'on la connaît aujourd'hui, surtout en primaire, n'est pas celle qu'on a pu connaître quand on était plus jeune. Après, je trouve que la question de est-ce que il faut scolariser ses enfants dans des écoles Montessori est une très bonne question. Donc, ce sont des écoles qui coûtent cher parce que ce ne sont pas des écoles privées sous contrat. Donc voilà, vous avez tous les, donc je m'adresse à Marilyn, vous avez tous les salaires des enseignants à payer, ce qui n'est pas le cas dans une école privée sous contrat, qui a des subventions de l'État. Mais l'offre Montessori, par ailleurs, est aussi du fait que voilà, c'est pas sous contrat, assez pléthorique et c'est pas facile de s'y retrouver. Donc moi, j'aurais quand même envie d'appeler les parents à la vigilance parce que sous ce label, on trouve un peu de tout. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas facile de s'y retrouver.
Comment sont formés d'ailleurs les enseignants des écoles Montessori ? Est-ce qu'on peut ouvrir une école Montessori comme ça ? Si j'ai envie d'en monter une demain, c'est possible ?
Alors,
ou est-ce qu'il y a un label ? Montessori officiel.
Le Maria Montessori n'a jamais déposé son nom, donc il n'y a pas de label Montessori officiel. Certains l'utilisent d'ailleurs très librement, sans avoir aucune justification à ce titre. Les éducateurs sont formés par l'Institut supérieur Maria Montessori et les diplômes sont estampillés AMI. Patricia Spinelli, qui est la directrice du centre de formation.
C'est quoi l'AMI ?
L'AMI, c'est l'Association Montessori Internationale, pardonnez-moi. Donc, si vous avez des éducateurs qui sont AMI, comme on dit, ils connaissent la pédagogie et l'utilisation du matériel de la bonne façon. En général, une formation pour les 3-6 ans et les 6-12 ans pour le primaire, ça dure un an.
Didier Pleu, depuis quand ?
Oui, il y a qu'une chose que je voulais rajouter. Je ne voudrais pas faire de la pub pour la pédagogue qui a un succès fou au niveau de son best-seller, mais la méthode Montessori en ce moment, elle est argumentée parce qu'on met les neurosciences avec. Hein, et dans ces livres-là, j'ai lu que, par exemple, dans un contexte favorable, l'enfant apprenait excellemment et que c'était très bon pour le développement de son cerveau. Donc on met les neurosciences à toutes les sauces, avec la méthode Montessori revue au bout du jour. Non, les neurosciences disent aussi l'inverse. On sait très bien que c'est dans l'accommodation, dans le conflit, qu'il y a une plasticité mentale et que l'enfant apprend encore mieux. Donc il faut se méfier. Il y a en ce moment effectivement un effet de mode, on dit un peu tout et n'importe quoi, et je crois que c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont être séduits alors qu'ils ne devraient pas l'être.
Et pour résumer la pédagogie de Maria Montessori, pour ceux qui nous prennent en route, Maria Montessori disait que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Bonjour Nicolas, vous nous appelez de Rennes, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes papa de deux petites filles.
C'est ça, oui, qui ont 2 ans et demi et 6 mois. Donc elles sont pas encore à l'école, mais la question se pose de les mettre à l'école. Alors l'école Montessori, puis beaucoup d'écoles alternatives sont très intéressantes. Elle pallie à beaucoup de manques qu'elle système scolaire. Il n'a pas été très efficace pour moi, donc, il a des défauts. Le problème, c'est que l'école publique, elle est publique, elle est gratuite, et donc du coup, il y a tout un tas de gens qui y vont, toutes les classes sociales qui y vont. On trouve des pauvres, des riches, etc. À Montessori, et dans les écoles privées en général, on va avoir des gens qui sont tous du même milieu, et donc un brassage social, un brassage des idées, des cultures, des façons de vivre et de penser, qui est quasi inexistant. Ce qui fait que ça fait des adultes à la fin qui ont une ouverture d'esprit assez faible. Et vous citiez en exemple les patrons de Google, etc. Bah pour moi, c'est pas vraiment des exemples, parce que c'est pas des êtres humains qui paraissent très très humanistes non plus, quoi.
Merci Nicolas pour votre témoignage depuis Rennes. Bonjour Coralie Piton.
Bonjour.
Vous êtes directrice du livre à la FNAC. Alors, dans vos magasins, on retrouve des rayons estampillés Montessori. Pourquoi est-ce qu'on retrouve autant d'objets, de livres, de jeux éducatifs estampillés Montessori ? Ça fait vendre et ça répond à quelle demande ?
Ça répond... La question que vous me posez, qui est pourquoi est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, parce qu'on les vend et parce qu'on nous les demande. Très clairement, on a un vrai appétit du public pour ces ouvrages-là, ça nous a amené effectivement à référencer et à proposer notamment via notre site près de 500 références qui sont à la fois des livres pour les parents, pour les enfants ou des coffrets avec des lettres rugueuses, des systèmes de calcul, etc. Et en magasin, comme on ne peut pas tout proposer, on met en avant, alors depuis longtemps et en particulier depuis l'an dernier, une trentaine d'ouvrages très référents qui sont très demandés et dont les ventes ont très fortement augmenté puisque l'année dernière, on constate une évolution de l'ordre de 80% par rapport à 2014.
Et l'idée, c'est de pratiquer la méthode Montessori à la maison.
Alors, ça peut être pratiquer la méthode Montessori à la maison ou le week-end lorsque les enfants sont à l'école publique ou bien accompagner l'enfant lorsque lui-même est dans une école Montessori. Ça peut être aussi simplement des activités pour les enfants qui reprennent des activités ou qui suivent des méthodes pédagogiques qui sont celles qu'il connaît dans son école Montessori.
Marilyn Mogin, votre regard sur cette marchandisation de la pédagogie Montessori ?
Alors, pour l'avoir un peu regardé, il y a de tout. Il y a du bon et du mauvais, malheureusement. Il faut bien vérifier que les ouvrages en question ou les coffrets soit fait par des éducateurs AMI Montessori.
Merci beaucoup Coralie Piton. Alors parmi les critiques adressées à la méthode Montessori, la remise en question de la nécessité d'un apprentissage, d'une transmission par l'enseignant. C'est une critique que m'a transmise le professeur de philosophie François-Xavier Bellamy. Le fait qu'il n'y ait plus cette transmission entre guillemets ascendante, quoi.
Mais la transmission est ascendante, puisque l'éducatrice ou l'éducateur présente à l'enfant. Donc, il transmet son savoir. Après, il le donne à l'enfant. Le rôle de l'éducateur est de guider l'enfant. C'est pas de, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas de remplir le vase. Ce qui, à mon sens, est le but de l'éducation nationale. Pour nous, c'est de laisser l'enfant s'épanouir et se construire.
Naïrine Alapétian.
Oui, c'est absurde. C'est évident que l'enseignant est toujours présent dans les quelles que soient les pédagogies innovantes qu'on applique.
C'est pas absurde, mais on peut s'interroger.
Non, il est là. Simplement, il n'est plus sur son piédestal. C'est d'autres méthodes.
Didier Pleu, rapidement.
Oui, ben moi j'aimerais bien qu'il redevienne un peu plus sur son piédestal. Et quant à faire des lectures un petit peu obsolètes, moi j'aime beaucoup l'éducation morale de Durkheim. Ce sont ses cours à la Sorbonne de 1902 où il dit que l'enseignant doit être quand même au-dessus de ses enseignés, non pas pour l'écraser, mais pour l'amener à des sentiments et des valeurs plus nobles que son ego.
Un mot de conclusion rapide, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, ben, je vais faire mon philosophe deux secondes, mais Hannah Arendt a écrit un très beau texte qui s'appelle « La crise de l'éducation », dans lequel elle, il faut pas tout lire, mais juste voilà une question qu'elle pose. Elle dit voilà que le rôle de l'éducation, c'est à la fois de prendre soin de l'enfant et en même temps de se préparer à le livrer à un monde qui lui ne prendra pas soin de lui. Et donc il y a cette double idée qui est d'être bienveillant à l'égard de l'enfant et en même temps de le préparer à affronter de l'inconnu. Et donc, de ce point de vue-là, oui, l'inviter aussi à prendre en compte les frustrations et le conflit.
Merci beaucoup, Marilyn Maugin, d'être venue. Nahiri Naapétian, je signale votre dossier d'alternative économique consacré à l'école. Merci beaucoup, Didier Pleu. Depuis quand demain, on s'intéresse à la politesse, à la technique ce matin, Grégory Vallon et Alice Berger.
Grand bien vous fasse.
Tout le monde a remis sa copine.
Sur France Inter.
Vous pouvez sortir.